Dipa Ma, 1911-1989. Bien que l'enseignement du Bouddha soit ouvert à tous, ce sont les hommes, et surtout les moines, qui ont dominé l'histoire du bouddhisme dès ses débuts jusqu'à nos jours. Cette situation est certes regrettable, mais pas vraiment surprenante. Depuis plusieurs milliers d'années maintenant, toutes les principales cultures du monde sont organisées selon des principes patriarcaux, dominés par les patriarches, donc par des hommes. Et les organisations bouddhiques n'ont fait que refléter cette orientation culturelle. Heureusement, cette situation déséquilibrée est en train de commencer à changer, surtout en Occident, où un nombre grandissant de femmes adeptes et instructrices se mettent à occuper le devant de la scène des cercles bouddhistes. Quoi qu'il en soit, que vous soyez un homme ou une femme, vous pourrez puiser dans la source d'inspiration qu'a été la vie de Dipa Ma, une femme au foyer bengali qui surmonta des situations extrêmement éprouvantes et devint l'un des maîtres du bouddhisme les plus accomplis de son temps. Une génération entière d'instructeurs du Vipassana la rêvèrent. Dipa Ma, dont le prénom était à l'origine Nani, naquit en 1911 dans une famille bouddhiste d'un petit village de l'actuel Bangladesh. Aînée de 7 enfants, Nani fit très tôt preuve d'un intérêt hors du commun pour le bouddhisme. Au lieu de faire semblant de cuisiner et de jouer à la maîtresse de maison comme les autres petites filles de son âge, elle adorait la compagnie des moines bouddhistes et confectionnait des guirlandes de fleurs pour les offrir aux images du Bouddha. Elle s'intéressait aussi beaucoup à ce qu'on lui apprenait à l'école, mais son instruction traditionnelle fut stoppée à l'âge de 12 ans, car, comme le voulait la coutume, ses parents la donnèrent en mariage à un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Heureusement, son mari, Rajani, était un homme bon. Il prit bientôt un emploi d'ingénieur à Rangoon, en Birmanie, le Myanmar d'aujourd'hui, où le couple s'engagea activement dans la communauté bouddhiste. Bien que Nani et Rajani aient fini par s'aimer mutuellement, d'un point de vue traditionnel, leur couple avait un défaut majeur dès le départ. Ils ne donnaient pas d'enfants. Pendant près de 20 ans, le couple demeura sans enfants, jusqu'à ce que Nani se retrouve soudainement enceinte. Mais sa joie de mère fut de courte durée car sa fille tant attendue décéda alors qu'elle n'avait que 3 mois. Nani elle-même en mourut presque de chagrin, mais 4 ans plus tard, elle était de nouveau enceinte. Cette fois, sa fille, que le couple appela Dipa, survécut. Nani en fut si heureuse que dès lors on l'appela Dipa Ma, la mère de Dipa. Au cours de sa vie d'épouse, Dipa Ma demanda fréquemment à son mari la permission de méditer, mais il refusa systématiquement, arguant qu'elle pourrait suivre la coutume indienne qui consistait à attendre d'être plus âgée avant de mener activement une vie spirituelle. Durant sa vie, qui fut marquée par la tragédie et le chagrin, Dipa Ma garda vivace son souhait d'apprendre la méditation. Elle eut une maladie de cœur, dut vivre la mort en bas âge de l'enfant auquel elle donna naissance. Elle eut aussi à subir des maladies qui la forcèrent à rester alitée en permanence et finalement, elle dut faire face à la crise cardiaque et à la mort subite de son mari. Veuve et malade à 44 ans, Dipa Ma se retrouva complètement désespérée avec apparemment aucune autre solution que celle de se résoudre à sa propre mort. Néanmoins, son médecin lui recommanda la méditation. C'était le seul espoir de guérison qui lui restait. Dipa Ma comprit alors plus clairement que jamais que seule la pratique de la méditation la soulagerait de sa souffrance et lui donnerait une paix véritable. Confiant sa fille aux bons soins d'un voisin, elle se rendit au centre de méditation de Kamayut, à Rangoon. N'oubliez pas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, après seulement une brève période d'instruction, Dipa Ma réussit à atteindre l'état de concentration méditative profonde qu'on appelle le samadhi. De retour chez elle pour s'occuper de sa fille, elle poursuivit la pratique de la méditation pendant plusieurs années avant de rencontrer Munindra, un instructeur de méditation bengali et son vénéré maître birman, Mahasi Sayadaw. Tous deux jouèrent un rôle décisif dans la transmission de la pratique vivante de la méditation bouddhique en Occident. Au cours d'une retraite au centre de Mahasi Sayadaw, elle progressa rapidement à travers plusieurs états de samadhi de plus en plus profonds, pour finalement atteindre le premier stade de l'éveil, un moment de calme indicible qui changea sa vie à jamais. À chacune des étapes successives de son voyage intérieur, Dipama brisa d'épaisses barrières de tourments et de douleurs, et elle abandonna aussi son attachement, qui se trouvait enraciné à des niveaux profonds de son être. En vivant ces expériences, elle recouvra la santé. Sa tension artérielle redevint normale, ses palpitations cardiaques disparurent presque, et elle retrouva son énergie physique après des années de maladie et de supplice physique. Progressivement, elle atteignit les différentes étapes de l'éveil. Écoutez le chapitre 10. En abandonnant toute trace de chagrin, de colère et de peur, et elle parvint ainsi à obtenir une paix de l'esprit et un sang-froid imperturbable jusqu'à ce que sa prise de conscience soit totale. En à peine plus d'un an, la mère et femme au foyer malade s'était transformée en une personnification de l'enseignement du Bouddha. Stupéfait et inspiré par son exemple, ses amis et voisins, qui avaient tous depuis plusieurs années quasiment abandonné tout espoir qu'elle survive, se mirent eux-mêmes à pratiquer la méditation. Dipama se mit finalement à accepter elle-même des disciples en leur enseignant comment transformer chaque instant de leur vie en méditation. Elle enseigna notamment à des mères et femmes au foyer comment pratiquer l'attention inébranlable à chaque fois qu'elles faisaient la vaisselle, la lessive ou qu'elles allaitaient leur bébé. Il est impossible de séparer la méditation de la vie même, répétait-elle souvent. Le sentier tout entier de l'attention consiste justement en ce que vous êtes en train de faire en ce moment même, peu importe ce dont il s'agit. Soyez-en consciente. Plus tard, lorsqu'elle quitta le Myanmar pour s'installer dans un petit appartement de la banlieue de Calcutta, elle attira un flot continu de femmes au foyer qui voulaient embrasser son approche pratique de l'entraînement à l'attention. N'oubliez pas. Peu après qu'elle ait, sous la houlette de Munindra, obtenu l'éveil spirituel, Dipama acquit aussi nombre des pouvoirs apparemment miraculeux qui n'existent sinon que dans les légendes des anciens maîtres de méditation. Apparaître en deux lieux en même temps, traverser les murs et voyager dans le temps. Mais elle cessa rapidement de faire la démonstration de sa maîtrise de ces siddhis, pouvoirs parfaits en sanskrit, parce que, en tant que telle, ces pouvoirs ne mènent pas à la libération de la souffrance qui reste le seul véritable objectif de la pratique bouddhique. Au lieu de cela, elle enseigna à ses disciples comment observer les règles de la conduite éthique pure et comment se consacrer au bien des autres, des préceptes qu'elle suivit elle-même durant le reste de sa propre vie. Bien qu'elle ait traité toute personne qui venait la voir comme son propre fils ou sa propre fille, et qu'elle ait comblé d'amour et de bénédiction tous ceux qu'elle rencontrait, Dipama pouvait aussi être implacable lorsqu'il s'agissait d'encourager ses disciples à aller plus loin, à pratiquer avec plus d'assiduité et à profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Dans une culture qui considérait encore les femmes comme des êtres inférieurs, Dipama déclara à ses disciples femmes qu'elles pouvaient en réalité atteindre des niveaux de pratique plus profonds que ceux des hommes, parce que leur esprit était plus doux et parce qu'elles avaient aussi mieux accès à leurs émotions. Parmi ceux qui vinrent la trouver pour recevoir son enseignement, ses encouragements et son inspiration, on compte les occidentaux Joseph Goldstein, Sharon Salzberg et Jack Kornfield. Ces gens-là allaient devenir plus tard des instructeurs de méditation qui ont compté parmi les plus influents en Amérique du Nord. Écoutez le chapitre 5 pour en savoir plus sur la diffusion de la méditation bouddhique en Occident. Dans les années 1980, Dipama accepta par deux fois leurs invitations de se rendre au centre qu'ils avaient fondé dans le Massachusetts, la Insight Meditation Society, afin de les aider à conduire des retraites. Elle mourut en paix en 1989 dans son petit appartement de Calcutta, avec à ses côtés sa fille et une disciple dévouée, prosternée devant une représentation du Bouddha et les deux mains jointes dans une prière.